afin de prendre en compte des prestations supplémentaires en raison de la survenance de plusieurs aléas de chantier, à savoir la relance du lot A01,1A Rosen, en raison de la faillite de la société Dutheil pour 2 721,94 € hors taxe. L'augmentation des honoraires due à l'allongement de la durée du chantier d'un mois pour 10 481,22 € hors taxe. La réalisation d'études complémentaires, l'installation d'une porte supplémentaire, complément de mobilier, pour 10 125 € hors taxe. Ces prestations représentent un surcoût total de 23 328,16 € hors taxe, soit une augmentation de 3,74% par rapport au montant introduit par l'avenant du 2 du marché et une augmentation de 8,04% par rapport au montant initial du marché. Le nouveau prix de marché est donc de 646 503,67 € hors taxe, soit 775 804,40 € toutes taxes comprises. Les autres clauses du marché restent inchangées. Il est précisé que cet avenant numéro 4 n'impacte que le forfait de rémunération du mandataire. Ce dossier a été présenté à la Commission des affaires scolaires et de la jeunesse le 19 mai 2015. Il est demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à signer et exécuter l'avenant 4 au marché de maîtrise de l'œuvre, ainsi que toutes les pièces en découlant.
Merci. Question.
Oui, j'aurais trois questions. La première question, les raisons du retard dans le chantier.
Alors, je vais être tout à fait avec vous. Je viens d'apprendre. Voilà. Je peux vous répondre plus précisément. Peut-être que ma collègue Madame Limoges a une réponse, mais un mois sur la durée totale du chantier, c'est pas non plus extraordinaire.
Enfin, en tout cas, c'est pas lié à Dutheil. C'est pas lié à la faillite.
C'est
lié à la faillite.
Le retard a été essentiellement dû à la faillite. Je crois qu'on a pris d'ailleurs plus de retard qu'il n'y en a eu au final. On avait bien pris 3 mois, je crois. 4 mois, et au final, on n'a qu'un mois de retard, je crois. Donc c'était essentiellement dû à ça. Il a fallu relancer un marché.
D'accord. Concernant les taux pour le calcul des honoraires, les taux de 75% et 85%, c'est écrit taux habituellement appliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Appliqué par quoi? Par qui? Sur quelle norme? Sur quelle base?
Sur les honoraires de quoi? J'ai pas de dossier sur
les honoraires. C'est dans l'avenant numéro 4.
Alors, l'avenant numéro 4.
Vous avez donc des... Vous avez donc deux phases, la phase dette-bâtiment, DET-bâtiment, avec un taux de 75%. Logiquement, ce taux aurait dû être de 45%, à peu près 45-50%. Là, on a 75%. Qu'est-ce qui justifie ce taux? Est-ce que c'est contractuel? Est-ce que c'est basé sur des normes? Je ne sais pas, mais...
C'est contractuel, c'est le taux pas...
C'est contractuel?
C'est le montant du marché. Ce sont les taux honoraires du marché.
Donc, qui ont été signés contractuellement, enfin...
Contractuellement dans le marché.
D'accord.
Marché initial. Hein.
Oui, oui. D'accord. Bien d'accord. Et ma troisième question concerne les études complémentaires. 13 jours et demi pour une pose de porte, une pose de coffret et une pose de cloison dans les toilettes. Ça ne justifie pas 13 jours et demi de réflexion. Ça, c'est plié en 2 jours. Alors, 13 jours et demi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Sincèrement, pour ceux qui connaissent le gros œuvre et ce genre de travaux, c'est pas ça.
Oui, c'est que chacun ses compétences. Si eux nous disent qu'ils nous annoncent un nombre de jours, ce sont leurs compétences.
Parce que toi, ils vous donnent. Sincèrement, pour les gens qui connaissent un peu la partie, enfin, c'est en 2 jours, c'est fait. C'est pas en 13 jours et demi. Enfin, il faut calculer une pose de porte, une pose de cloison, une pose de coffret. Enfin, d'un coffre. C'est pas. Je ne vais pas dire, mais c'est assez étonnant.
Oui, c'est le B.A.B.A. De toute façon, moi je ne serais pas cassé des cloisons de jour chez moi. Il faut que les choses sèchent, du bon pain.
C'est l'étude.
C'est l'étude,
là. C'est la réflexion, là. Ah, c'est juste pour réfléchir à plus importe.
Si vous voulez, je vous ferai une réponse par écrit.
Okay.
Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de
soucis. On fait comme ça.
On vous détaillera.
L'essentiel, c'est que les portes aient été posées.
Ah bah, pas n'importe quel coup.
À 13 jours et demi, j'espère.
Pas n'importe quel coup. Enfin,
qui s'abstient? Qui est contre?
Oui, on compte parce que là.
Merci. Madame le Président, dossier suivant.
L'établissement public de la Courbevoie a été créé par une délibération du Conseil municipal du 20 avril 2005 et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil a désigné dans sa séance du 11 avril 2012 M. Daniel Coupelier en qualité de directeur de cet établissement. Il a été nommé par la présidente de la Courbevoie pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2012. Donc, pour rappel, M. Coupelier occupe ses fonctions depuis le 1er juin 2006. Ce dossier a été présenté à la Commission des affaires scolaires de la jeunesse et de la jeunesse du 19 mai 2015. Et il est demandé au Conseil, sur proposition de M. le maire, de reconduire M. Daniel Coupelier dans ses fonctions de directeur général de Val-Courbevoie pour une nouvelle période du 1er juin au 31 décembre 2015.
Oui, j'ai une question. Quelle est la nature du contrat qui lie M. Coupelier à la mairie? C'est un compte, il est agent territorial ou il est agent contractuel?
Il est agent territorial. Il est mis à disposition du Val.
D'accord.
Voilà. Autre question?
Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, Madame Dalini.
Merci, Madame. Le développement durable est au cœur des préoccupations de la ville. Du 30 mai au 5 juin 2015. La ville s'investira dans le cadre de la semaine européenne du développement durable sur le thème « Une semaine sans pétrole ». Il est envisagé d'impliquer un public large de cette manifestation pour le sensibiliser aux enjeux du développement durable. Ateliers pédagogiques, expositions à essais de voitures électriques et hybrides, conférences, etc. Chaque jour, des animations pour imaginer cette nouvelle ville sans or noir seront proposées aux Courbevoisiens. De plus, tout au long de cette semaine, la ville organisera un jeu concours sans obligation d'achat qui incitera les habitants à participer à cette manifestation. Il conviendra de répondre correctement à des questions figurant sur un formulaire à retirer chez les commerçants. Un jury, présidé par M. le maire et composé de 3 élus municipaux, sera chargé de désigner les lauréats départagés par un tirage au sort. Ce dossier a été présenté à la commission de l'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement le 18 mai 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver le règlement du jeu concours organisé dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable et la distribution des lots aux lauréats pour le premier prix, un vélo adulte pliable d'une valeur de 300 euros. Pour le deuxième prix, un abonnement autolib d'un an d'une valeur de 120 euros. Pour le troisième prix, une balade d'une heure 30 en Segway à Paris, valable pour deux personnes et d'une valeur de 76 euros. Puis, du 4e au 50e prix, des lots compensatoires, ce sont des arbres miniatures.
Oui. Donc, il convient maintenant de procéder à la désignation de 3 élus membres du jury de ce jeu concours. Nous avons reçu la candidature de Mme Franco et de M. Latouche. Il nous faut un autre candidat de l'opposition des oppositions. Ce qui proposez-vous?
D'accord.
Parce qu'on va, si jamais.
C'est
vous, madame. Et vous aussi, donc deux candidats. On va voter donc, on va noter les noms personnes et puis on va faire passer l'urne et on va voter. D'accord. Alors, là, on va donner une.
Monsieur le maire, vous avez dit un deuxième point de fait, le deuxième point est là, parce que je parle.
Excusez-moi.
Il y a Madame Guessou.
Le deuxième candidat, c'est madame.
Ah d'accord.
Non, ça a été bien précis dans cette dossier. Donc vous allez faire l'appel, sinon vous allez donner la feuille. Donc ceux qui ont un pouvoir votent deux fois, bien entendu. Vous avez deux candidats, c'est bien noté. D'accord.
Alors, Monsieur Kosowski, Monsieur Jacques Kosowski, pardon. Madame Marie-Pierre Limoges. Monsieur Éric Césari. Monsieur Daniel Cortès. Madame Nicole Pernaud. Monsieur Patrick Givonnet, Madame Christine Radnac. Monsieur Jean Spiry. Madame Aurélie Taquilin. Monsieur Bernard Accard. Madame Sherazade Djebari. Monsieur Yves-Jean. Madame Sandrine Lanqueneux. Monsieur Serge Dessé-Maison. Madame Laetitia De Villa. Madame Nathalie Renaud. Madame Jacob Chaillet, Marion Jacob Chaillet. Monsieur Hervé de Compiègne. Monsieur Michel Georget. Madame Catherine Morel. Monsieur Arthur Saint-Gabriel. Monsieur Guy Rayet. Madame Christine Francoze. Madame Martine Boragno. Madame Solange Rossignol. Monsieur Yu Yang. Monsieur Châtelain. Monsieur Fichant. Madame Écran. Monsieur Boli. Madame Maria Garcia. Monsieur José de Nascimento. Madame Blandine Pouliquel. Madame Boutaina Sebata. Monsieur François Latouf. Madame Sybille Dalligny. Monsieur Rénal Bongin. Madame Stéphanie Suarez. Madame Caroline Cornu. Monsieur Fanny Daïtoba. Monsieur Pierre Laroche. Madame Diane Zetou. Monsieur Gendré Lasserre. Ah, Donc, Corinne Leroy-Burel.
Moi.
Monsieur Jean-Philippe Elie.
Merci.
Alors, la route. Madame Christine Boucherie. Monsieur Alban Thomas. Monsieur Richard Proche. Madame Floriane Deniaux. Madame Dominique Guillard. Monsieur Arash de Rambarche. Et Madame Ghislaine Guessou.
Merci beaucoup. Et Madame Deniaux, est-ce que Monsieur Proche pourrait venir
vous aider
pour dépouiller Et Monsieur de Compiègne, ça vous dirait. Merci beaucoup. Et en attendant, vous pouvez quand même le rendu du concours. C'est important. Oui.
Oui.
Qui s'abstient, qui est contre. Merci. Madame Bénie, position.
Ces dernières décennies, l'emploi d'insecticides, la gestion intensive au niveau national des espaces verts, désherbage, utilisation des plantes horticoles stériles ont fait fortement diminuer les populations d'espèces butineurs, abeilles, bourdons, papillons, etc. Indispensable au maintien de l'équilibre des écosystèmes et de la biodiversité. La ville n'utilise plus de produits phytosanitaires chimiques de synthèse pour la gestion de ses espaces verts depuis 2008. De plus, le choix de sa palette végétale favorise la biodiversité. De ce fait, et dans la continuité de ses actions, elle souhaite mettre à la disposition de l'association Abeilles Meudonnaises du Cicéron et ses Parisiens une surface sur la clôture terrasse végétalisée du centre événementiel pour l'implantation de trois ruches. Ce dossier a été présenté à la Commission de l'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement du 18 mai 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver la mise à disposition par la ville à l'association Abeilles Meudonnaises du secteur ouest parisien d'une surface sur la toiture terrasse végétalisée du centre événementiel pour l'exploitation de trois ruches et d'autoriser M. le maire à signer et exécuter la convention entre la ville et cette association pour l'installation de ces ruches.
Merci. Question. Madame.
Doter des jardins et des espaces publics de la ville en rouge est une très bonne idée. Maintenant qu'on sait que l'abeille est préférée paradoxalement en milieu urbain, alors qu'elle est décimée par les productions agricoles et les monocultures à la campagne. Bien entendu, il faut poursuivre l'effort de favoriser les plantes mellifères et il est important de prévoir une information aux propriétaires de jardins et terrasses en ce sens pour les inciter à faire de même. Est-ce que vous pouvez nous dire si des particuliers ou des copropriétés ont accepté d'appliquer des ruches?
À l'heure actuelle, ce sont des sociétés privées, plutôt sur le territoire de la Défense, qui en ont, fait la demande. On n'a pas connaissance des ruchers privés sur le territoire à l'heure actuelle.
Autre question, est-ce que vous envisagez de solliciter les bailleurs sociaux?
On les a déjà sollicités en fait pour mettre sur les toits terrasses. Et pour l'instant, c'est plus une difficulté technique d'accès aux toitures puisque il y a des échelles et en fait pour porter la ruche sur le dos, c'est pas très commode.
Mario Jacob Chaillet, je crois que Domaxis a accepté ou installe des ruches sur ces toits.
Le bailleur, effectivement, sur le faubourg de l'Arche, Domaxis, depuis Vitchavane, qui va installer une ruche en courant du mois de juin. Et il y a également des propriétaires privés qui ont des ruches déjà sur leur terrasse au niveau privé.
Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Bien, vous avez. Après, nous avons eu des décisions qui ont été prises sur l'article 21-22-22. Avez-vous des questions à poser? Monsieur.
Oui, alors, nous avons vu donc un marché qui a été passé le 28 avril, qui consiste en la conception, réalisation et rédaction d'un journal trimestriel relatif au quartier de la ville de Courbevoie. Et donc on comprend qu'en fait ce journal sera gratuit et que le titulaire se rémunérera uniquement par la publicité qu'il mettra dedans. Alors, on a une question. Un premier marché a été lancé en septembre 2014 pour un an reconductible trois fois. Et donc là, un second marché est lancé avec le même objet. Donc on se demande en fait pourquoi. Quel était le prestataire du premier marché et pourquoi n'a-t-il pas été reconduit? Et enfin, du coup, est-ce qu'il y a des modifications apportées au second marché par rapport au premier marché?
Le premier marché que nous avions lancé était similairement le même, simplement il avait été infructueux. Nous n'avions aucun candidat. Il avait été lancé à l'été 2014, si mes souvenirs sont bons.
Donc, septembre.
Ouais, il avait été lancé pendant l'été, hein, je crois.
Ah oui,
donc, à la fois la période et d'autre part, si mes souvenirs sont bons, la répartition des publicités, enfin le chapitre concernant l'insertion des publicités sur lesquelles se rémunère le prestataire n'était pas suffisamment attractive. Donc on a modifié un peu ce chapitre-là, ce qui fait que là, le marché cette fois-ci est fluctué, nous avons plus d'attributs. Il n'y a pas eu marché lancé, il est infructueux.
Donc en fait, la place réservée aux publicités a été augmentée.
C'est pas forcément une question d'augmentation, c'est plutôt de répartition des. Elle a été mieux explicitée la répartition. Parce qu'on veut cibler essentiellement les commerçants de Courbevoie, et notamment on va réserver sur les pages qui sont dédiées au quartier un petit emplacement pour les commerçants de Courbevoie sur chaque double page dédiée au quartier. Ce que les commerçants réclament depuis longtemps, ils sont très demandeurs de pouvoir bénéficier d'encarts de publicité dans les magazines de la ville. Or, c'est un choix de la ville que le magazine n'est pas d'encart publicitaire. Donc là, ils pourront profiter en même temps d'une pagination adaptée à leur quartier de fréquentation.
Et autre question, donc la rédaction de ce journal sera assurée par le prestataire, qui sera entièrement libre de...
Non, il ne sera pas entièrement libre. Non, il y a un comité de rédaction qui sera composé d'élus et de personnels du service communication, qui se réunira avec le prestataire, donc qui décidera ce comité de rédaction des sujets qui seront traités au magazine, et à la suite de ça, c'est le prestataire qui décidera, mais sur comment.
Et le responsable de publication, du coup, sera...
Le maire.
Le maire.
D'autres remarques?
Alors, une remarque qui n'est pas... qui n'a pas trait au marché, mais comme on va passer aux questions orales, c'est une remarque sur les... Monsieur le maire, sur les courriers qu'on vous a envoyés, oui. Des courriers de précision, on a un certain nombre de courriers qui sont en souffrance depuis octobre dernier. Voilà. Alors vous nous aviez promis une résorption des retards, donc vous avez fait une relance en mars, et donc on a 5-6 courriers qu'on attend impatiemment. Et notamment, je pense à la fameuse étude stratoriale, qui est l'étude financière qui a permis à la municipalité de bâtir le budget. On voit que vu la communication extrêmement importante que vous faites sur le sujet, il nous semblerait loyal que nous puissions disposer de cette étude. On a eu une partie de l'étude, mais voilà, sans un document qui était sans en-tête. Voilà, on aimerait bien avoir l'étude, le produit fini, tel qu'on l'a reçu. Donc ça fait partie d'un des courriers, mais il y en a d'autres.
Le directeur. Et ce partenariat, on voit la
parole. J'ai eu un papier sans en-tête, donc qui ne donnait pas l'impression d'être le document complet, qui donnait que les parties nationales. Je présume que cette étude devait donner une projection municipale des recettes et des dépenses. Voilà. Je ne l'ai pas ramené avec moi, mais ce document ressemble à un extrait. Voilà, il n'y a pas d'en-tête, il n'y a pas de... Donc, on aimerait vraiment avoir cette étude complète, hein, s'il vous plaît. Alors,
je vais regarder ça avec le directeur général de service.
Merci.
Il n'y avait rien d'autre après, sinon on passe aux questions orales. Donc, avant de donner les résultats, quand même, en ce qui concerne le jury de concours, nombre de votants 53, bulletin trouvé dans l'urne 53, bulletin blanc nul 2, donc suffrage exprimé 51, obtenu. Donc, Mme Francoise et M. Latouf 42, Mme Guéjoux 7 et Mme Villoir 2. Voilà, donc sont déclarés élus Mme Francoise, M. Latouf et Mme Guéjoux. Merci. Question donc orale, tous pour qu'on revoie qui commence.
Alors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient d'annuler l'attribution de la DSP pour l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules. Pouvez-vous nous donner des explications sur les conditions d'attribution de cette DSP ?
Monsieur de Cémaison.
L'enlèvement, merci Monsieur le maire. L'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules a été lancé selon la procédure de délégation de service public DSP simplifié en vertu des articles 1411-2 et L1411-12. L1411-13 et R1411-2 du CGCT, le Code général des collectivités territoriales, publication en décembre 2014. Le principe de la DSP a été approuvé par le Conseil municipal du 23 juin 2014 et le choix de l'attributaire a été approuvé au Conseil municipal du 7 avril 2015. Les critères de sélection des offres pour ce contrat étaient les suivants. Les aspects financiers seront notés sur 60 points, égaux ou inférieurs au prix autorisé par l'arrêté ministériel, montant de la redevance annuelle, le cas échéant, pourcentage sur le chiffre d'affaires enregistré au-delà d'un nombre déterminé de véhicules enlevés, le cas échéant, prix pour l'enlèvement des véhicules épars. Seulement, la valeur technique de l'offre sera notée sur 40 points, appréciée entre autres, au regard des informations contenues dans le mémoire proposé par le candidat, moyens humains, matériels, descriptifs des locaux et des interventions, leur ouverture au public, moyens d'accès, le candidat veillera à préciser l'accessibilité en fournissant le trajet du poste de police municipale 6913 rue Lambrecht à Courbevoie jusqu'au terrain de mise en fourrière, état de type, MAPI. Google Maps, Michelin, etc. Selon ces critères, une analyse détaillée a été faite, candidat par candidat, pour les trois candidats ayant soumissionné. La société interdépannage répondait le mieux à l'ensemble des critères exprimés par la ville et proposait en outre une offre financière la plus avantageuse au regard des autres candidats. À l'issue de l'analyse, l'offre de la société interdépannage indiquait qu'elle disposait d'une capacité de stockage d'un terrain de 9812 m² pour son activité. Or, la société interdépannage exerce son activité sur une parcelle de 2666 m² de parties couvertes et sécurisées. Cette parcelle étant comprise sur la parcelle de 9812 m² telle qu'évoquée dans son offre et qui appartient en réalité à France Domaine. Les renseignements fournis dans les documents de la société interdépannage, délégataire après son PI, étaient inexacts. Il est précisé d'une part que la taille du terrain était un des nombreux éléments d'appréciation de la valeur technique, mais n'était pas un critère en tant que tel. D'autre part, un candidat disposant d'une offre dans le cadre d'un contrat de la commande publique s'engage sur l'exactitude des données fournies. Enfin, le tribunal administratif n'a pas remis en cause la procédure de passation de la DSP, mais a annulé la procédure à compter de l'examen des offres en raison de l'inexactitude des données fournies par la société qui aurait dû être retenue, ce qui ne remet pas en cause que l'analyse des offres de ce contrat.
Merci. Autre question.
Par rapport à ça, donc comment, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Que
ce DSP est annulé,
enfin, il va se passer quoi
ce qui va se passer, c'est qu'on continue le service public. Je je vous rassure, les véhicules seront toujours enlevés à Courbevoie pendant cette période.
On est rassuré.
Et en attendant, la remise en procédure de TSP, voilà, dans un délai. Voilà.
Autre question.
Le 24 septembre 2013, le conseil municipal a désigné par 43 voix contre 7 la société SAGS comme délégataire des services publics pour la gestion des parkings municipaux. Cette désignation n'a pas pour effet d'exonérer la municipalité de tout contrôle. Bien au contraire, un suivi régulier de la DSP est essentiel pour s'assurer que le service public confié à une société privée est correctement assuré. Le 15 mars 2015, une courbevoisienne a envoyé un courriel à la société SAGS et à la mairie de Courbevoie pour signaler que le tarif forfait semaine de 35,20 € n'est pas appliqué par la borne de paiement du parking La Paix à Bécon. Pour récupérer son véhicule stationné pendant 8 jours et 19 minutes, elle a dû s'acquitter de 137 € au lieu de 52 €. La personne s'est présentée à l'agent de surveillance du parking pour contester le prix payé. Il lui a alors été répondu que le forfait semaine n'est valable que si le conducteur du véhicule en fait la demande au poste d'accueil. Problème, cette procédure n'est pas affichée au parking La Paix, pas plus qu'elle ne l'est au parking Charras. J'ai pu le constater à deux reprises, les 14 avril et 21 mai dernier. Ni la SAGS, ni la mairie de Courbevoie n'ont répondu au courriel du 15 mars. Le 15 avril, une lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée à la SAGS, qui, une fois de plus, n'a pas daigné répondre. Que compte faire la mairie pour que l'usagère soit remboursé et éviter qu'une telle situation ne se reproduise ?
Madame Ivache.
A été traité par les services de la ville. Nous avons effectivement constaté que l'information dont vous parlez n'est pas suffisante, il n'existe pas à l'entrée des parkings. Nous avons demandé à SAGS de procéder au remboursement du trop perçu. La personne en question ne réglera donc que les 52,40 € qu'elle aurait dû régler au départ, donc on a envoyé un courrier à cette personne pour lui indiquer ça, pour lui faire part de notre regret que l'information n'ait pas été suffisante, effectivement, et un courrier dans le même temps, un courrier à SAGS pour lui dire de procéder au remboursement et de procéder à la mise en œuvre d'une information sur cette prestation à l'entrée de chaque parking. J'ai la copie des courriers.
Alors, juste pour votre information, je suis repassé le 25 mai à Charras, c'était toujours pas en place. Et il n'y a pas que ce genre de problème, j'ai discuté avec l'agent qui était de surveillance ce jour-là. Il y a des soucis actuellement d'utilisation des cartes magnétiques pour les gens qui sont prélevés. Des gens qui sont prélevés au niveau de leur mensualité et dont les cartes ne marchent pas et la SAGS ne répond jamais. Donc on a un courbevoisien qui pendant 10 jours n'a pas pu accéder à son parking. C'est assez récurrent et ça m'était confirmé par les différents agents que j'ai pu rencontrer dans les différents parkings. Et malheureusement, je me suis également renseigné sur d'autres villes. La SAGS est assez coutumière du fait. Ce serait bien qu'un petit peu la mairie fasse un petit coup de sermon pour qu'ils arrêtent un peu leur pratique.
Merci de l'information. Et on va continuer. Si les gens veulent, et que les gens n'hésitent pas à nous signaler tous les dysfonctionnements, on peut les traiter en direct. Comme ça, on a des retours plus directs et plus rapides.
Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que les gens n'ont pas le réflexe d'aller forcément en mairie pour signaler les problèmes. J'ai eu retour parce que j'y suis allé, c'est là que les agents m'ont signalé, c'est-à-dire qu'on discute avec eux, ils me l'ont dit.
Troisième question.
Alors, l'accès public à l'eau et au sanitaire est un problème d'hygiène et de santé publique. Avec l'arrivée de l'été, la carence dans ces équipements publics se fait prégnante dans de nombreux parcs et squares de la ville. Une bonne hydratation lors des activités ludiques devient une nécessité pour tous par temps chaud sur des revêtements qui transforment souvent l'atmosphère en fournaise, revêtements synthétiques au square Freudenstadt, minéral au parc Nelson Mandela. De même, l'absence de sanitaire fait que des endroits de ces parcs deviennent des zones pestilentielles. Outre les problèmes d'hygiène et de santé publique créés par l'absence de ces équipements, une image dégradée de la ville est également renvoyée aux habitants et visiteurs de Courbevoie, tout en leur causant des désagréments. La mairie peut-elle engager d'urgence une réflexion sur cette problématique afin de pourvoir les parcs et squares les plus fréquentés de la ville, de fontaines d'eau et de sanitaires, et ou flécher les parcs et squares non pourvus de ces équipements en y imposant le point d'eau et sanitaire public le plus proche.
Monsieur Acquart, merci.
Alors, il faut distinguer les sanitaires et puis les bornes fontaines. Les sanitaires, c'est uniquement dans les grands parcs. Actuellement, on compte 6 sanitaires dans la ville. Ce sont des sanitaires qui sont par contrat de la société de Côte sur le marché immobilier de la ville. Donc, tous les grands parcs sont équipés de sanitaires. Naturellement, on regarde à la bonne adéquation. Par exemple, on s'est aperçu que dans le square de l'hôtel de ville, il y a un taux d'usage qui est extrêmement faible. Donc, on fait une étude en ce moment pour savoir si ce ne sera pas opportun de déplacer dans un endroit qui serait plus fréquenté. Alors, ça, c'est une part. D'autre part, les bornes fontaines, il y en a une quinzaine dans la ville. On les met dans les parcs les plus fréquentés, et là aussi où il y a plus d'activité physique. Et de cela, ils sont tous équipés de bornes fontaines. D'autre part, on n'est pas interdit pour les enfants, s'il y a des petits squats, etc., d'apporter une bouteille d'eau, quelque chose comme ça. L'activité des parcs est notamment suivie pour connaître les prévois complémentaires. Par exemple, en 2015, on a installé une fontaine au parc Mandela. On a toute la liste des espaces verts où on peut trouver une grande fontaine et des sanitaires. En fait, il faut trouver une bonne adéquation entre les demandes parfois justifiées des habitants, mais également s'efforcer d'avoir une gestion économe des ressources et d'autre part, peut-être que les parents peuvent avoir aussi un peu leur responsabilité, parce qu'on s'aperçoit, c'est la même chose dans les commerces, les enfants qui partent avec leurs parents, les parents peuvent demander d'être le volet. Et en général, ils répondent oui. Et puis, 5 minutes après, on les voit arriver dans le... Je sais, j'ai le cas régulièrement. L'enfant réclame. Alors, la mère, furieuse, dit, mais je viens de te demander. Oui, mais j'avais pas envie tout à l'heure, j'ai envie maintenant.
Parce qu'il est logique.
On peut être aussi pour la 1000 habitants. On n'arrivera jamais, sinon, à mettre assez de toilettes, de temps de fontaine, etc. Donc, il faut trouver la bonne adéquation entre les demandes qui peuvent être justifiées. Ça, donc, on regarde. Ici, il y a des points qui nécessitent des endroits complémentaires. Mais aussi, que les gens fassent attention à faire ces courses. Quand on prend un cabas, sinon, on va faire des sacs plastiques, etc. Il y a un comportement individuel aussi qui peut bien aider à avoir une bonne considération de cette gestion.
D'accord. Ma question ne concernait pas que les parcs, parce qu'apparemment, parler que des parcs, ça concerne aussi les squares, et moi j'en vois deux. Bon, concernant les parcs, c'est pas mal que vous installiez effectivement, quand vous envisagez installer une fontaine à Nelson Mandela, parce que il y a des arbres qui sont plantés, ils sont pas encore grands, et quand le soleil tape, alors là c'est la fournaise. Donc s'il y a une fontaine, c'est pas mal, et des toilettes, ça serait bien aussi. Par contre, il y a un endroit, je pense que vous n'avez pas évoqué, vous l'avez peut-être oublié ou peut-être que vous l'avez en perspective, c'est quand même Charras. Il y a beaucoup d'enfants et il n'y a pas que les enfants qui vont aux toilettes, il y a aussi les parents qui ont des enfants, ça peut arriver aussi. Et l'eau, c'est pareil, hein, vous voyez. Donc, si vous y allez en été, vous verrez, hein, les enfants vont dans les arbres et puis c'est vraiment les odeurs. C'est... Donc, je pense qu'il faudrait que vous pensiez à cette zone aussi, parce qu'elle est vraiment très fréquentée. Et là, et autour, il n'y a rien. C'est-à-dire, à part aller au café, mais bon, on ne va pas envoyer tout le monde au café. Oui, alors, justement.
Vas-y.
Le voyage que j'ai pu faire avec M. le maire et quelques autres de ce conseil à Freudenstadt nous a montré qu'il y avait aussi des idées toutes simples qui pouvaient être mises en place. Alors, en plus, à Charras, c'est le parc Freudenstadt, donc raison de plus. Il s'agit de passer une convention entre la ville et un restaurant, un café ou un commerce qui a des toilettes. Le commerçant appose sur sa porte, alors en allemand ça se dit nette Toiletten, gentille toilette, alors je ne sais pas, on peut peut-être inventer autre chose en français, ce qui indique à tous que même si vous n'êtes pas client, vous pouvez utiliser les toilettes. J'avais demandé à monsieur le maire de Freudenstadt combien ça coûtait. C'était de l'ordre de 50 euros par mois. Enfin, c'était vraiment un dédommagement infime aux commerçants. Alors ça, c'est à discuter, bien sûr, avec les commerçants. Mais c'est quelque chose qui est sans doute beaucoup moins coûteux que d'installer des toilettes publiques, qui ne demande aucun aménagement, juste une convention entre la mairie et un commerçant. Donc là, on a quelque chose qui est l'exemple de quelque chose qui est simple, qui est peu coûteux et efficace. Donc je ne sais pas si ça existe en France, ça existe en Allemagne, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas en France. Et si ça n'existe pas en France, bah, si Courbevoie est la première à le faire, ça peut être aussi montrer qu'on est une ville qui pose cette question, parce que c'est une question effectivement essentielle pour tout usager de parc ou de square dans la ville. Alors en plus, sur le parc Freudenstadt, il y a énormément de commerçants. Alors il y en a qui ne sont peut-être pas très pratiques parce qu'il y a une rue très passagère à traverser, mais en tout cas, il y a une piste là, il y a sûrement des choses à faire et ça serait bien de trouver une solution pour ce problème qui concerne des milliers de courbevoisiens.
Je vais juste compléter la réponse de monsieur Attard. Actuellement, à Courbevoie, il y a 4 toilettes. On a fait le calcul, il y en a 4. Donc 2 qui ne fonctionnent quasiment jamais. Celle du pont de Levallois ne fonctionne quasiment jamais. Celui du parc de Bécon, il faut la trouver. Et les gens qui ne sont pas de Courbevoie ont du mal à les trouver. Ils ne sont pas indiqués. Il y en a un au parc du Millénaire qui ne fonctionne quasiment jamais. Et il y en a une à côté du cercle des anciens combattants. On est 90 000 habitants. Actuellement, les personnes âgées ne sortent pas pour deux raisons. Pas de toilettes et pas de bancs. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est un vrai problème. Et je suis désolé, 4 toilettes ou 6 toilettes pour 90 000 habitants, c'est scandaleux. Charras, c'est le seul centre commercial de France où il n'y a pas de toilettes. Tous les Courbevoisiens que je croise sont furax. Aucun moyen de se soulager. Alors, c'est un besoin naturel. Et ça n'est pas aujourd'hui. Je veux dire, Charras, ça fait 30 ans qu'il existe. Donc, c'est pas compliqué de mettre en place des toilettes chimiques. C'est assez facile. C'est tout. Les personnes âgées, mine de rien, elles nous parlent souvent. Effectivement, elles ne sortent plus à cause de ça. Pas de banc. Les personnes âgées qui sont 70, 80 ans, qui n'arrivent pas à marcher, qui ne peuvent plus faire leurs courses parce qu'elles ne peuvent pas se faire d'halte intermédiaire, et c'est un vrai souci. Je pense que Mme Pernoud n'ira pas à l'encontre de ce que je peux dire. C'est un vrai problème. C'est une problématique.
Quatrième question.
Alors, lors des premières inscriptions, les places en accueil de loisirs pour le mois de juillet se sont révélées nettement insuffisantes, provoquant la vive inquiétude de nombreux parents. Quelles sont les raisons de cette pénurie initiale? Les nouvelles places créées ont-elles permis de satisfaire toutes les demandes? Combien d'enfants ont-ils été inscrits? Et le cas échéant, combien de demandes n'ont pu être satisfaites?
Madame Blocuneux.
Bien, lors des réservations, on est parti sur une moyenne basse de fréquentation de juillet dernier. Voilà. Et une des raisons pour lesquelles les places ont été fréquentations, c'est qu'en l'espace de entre 30 minutes et une heure, le logiciel a été pris d'assaut par les parents. On s'est vraiment retrouvé avec une pénurie. On est intervenu tout de suite quand on s'en est aperçu. Bon, les inscriptions débutent à 13h30, donc le temps qu'on ait le retour, ça a pris un petit peu de temps, mais dans l'après-midi. Et on a remis des places en ligne pour des réinscriptions à partir du lendemain. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont été mises en liste d'attente, à partir du moment où elles n'ont pu avoir de place le premier jour d'inscription, ont eu une réponse favorable à leur demande. Maintenant, les écoles qui sont complètes, parce qu'on a une capacité d'accueil de 1960 places, les écoles qui sont d'ores et déjà complètes, donc ces personnes-là, on leur demande de nous écrire un courriel nous indiquant leur souhait d'inscription. Et on attend encore un petit peu, parce que je vous rappelle que la période d'inscription, elle est du 19 mai au 19 juin, donc il y a une réponse à laquelle que je ne peux pas vous apporter, qui est celle de est-ce que toutes les demandes ont été satisfaites, puisque la période d'inscription n'est pas terminée. On a souvent, dans les inscriptions, des parents qui prennent des inscriptions et qui annulent, donc au fur et à mesure, on prend dans les listes d'attente et on inscrit les parents. Nous n'avons jamais refusé ou laissé sur le carreau, entre guillemets, un parent. C'est-à-dire que quand une école est complète, vraiment complète à la fin des inscriptions, on propose toujours une école dans le secteur de manière à pouvoir trouver une solution de garde aux enfants, aux parents pour les enfants.
Merci. Juste une question, est-ce que vous êtes obligé d'ouvrir des écoles supplémentaires ou vous avez dispatché les gens sur d'autres écoles qui étaient déjà ouvertes?
Alors, pour le moment, les écoles, on n'est pas dans l'obligation, parce qu'on n'a pas à ouvrir d'écoles supplémentaires. Les écoles qui sont fermées pour cause de travaux principalement au mois de juillet. Donc ce sont des écoles auxquelles, de toute manière, nous n'avons pas accès pour des raisons de sécurité. Mais on arrive toujours à trouver des places pour les enfants.
Merci, Madame Brunet. Mesdames et Messieurs, bonsoir.